Vous êtes sur RTL. Pro sur RTL.
Oui, Yves,
oui,
qui est en Seine-et-Marne. Que voulez-vous dire sur ces retournements de veste ?
Bah écoutez, concernant, puisqu'on évoque le sujet des masques, pour n'évoquer que celui-là. Bon, au tout début, on nous a expliqué, enfin si j'ai bien compris, si j'arrive à comprendre, que c'était utile, mais quelqu'un arrivait en disant, ah ben non, en fait, ça n'était pas tant que ça.
Ouais, mais alors, là, c'était en mars, là, vous...
Oui, oui, bah écoutez...
C'est vrai qu'on a progressé, si j'ose dire, depuis.
Ça, vous trouvez ?
Ah bah ça oui, vous... quand même, sur le masque, oui. D'abord, il y en a, oui. Alors qu'il n'y en avait pas. On sait aujourd'hui qu'il est utile en toutes circonstances, voire indispensable, et qu'il nous protège efficacement. Donc,
Non, mais ça, je suis d'accord, je porte moi-même des masques dits chirurgicaux, si j'ai bien compris. Mais là, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème avec les masques en tissu, maintenant.
Bah oui.
Alors, oui, d'accord. Bon, je rappelle que moi, j'en ai reçu régulièrement des masques en tissu qui étaient envoyés par le conseil départemental. Il y a eu aussi des gens qui, de par leur propre initiative, enfin des associations, c'était d'ailleurs, ça partait d'un bon sentiment, qui en faisaient également. Maintenant, si j'ai bien compris... Mais je ne suis pas médecin, mais si j'ai bien compris, on commence à mettre en doute leur efficacité.
Voilà, c'est ça. Selon les normes élaborées par la FNOR, les masques de catégorie 1 filtrent 90% des particules et les catégories 2 n'en bloquent que 70%. Et ce qu'on remet en cause, c'est les masques en tissu moins filtrants.
Oui, d'accord. Donc, alors, les masques en tissu, on nous a aussi dit qu'il fallait les laver jusqu'à 10 fois maximum, hein, si j'ai bien compris. Bon, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la première portée, ça peut aller, mais plus on va les laver, moins ils sont efficaces. J'avoue que moi, je me perds un peu en conjecture.
Il faut prendre les masques, pour être tranquille, les masques catégorie 1. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne manque pas, disons-le quand même.
Ah mais je suis d'accord, je dis pas que ça manque, mais avouez quand même que ça contribue à entretenir en fait la confusion dans l'esprit du public, parce que je rappelle quand même que la plupart des Français ne sont pas médecins, donc ils entendent tel ou tel langage, et malheureusement, on se demande à quoi ça sert, est-ce que ça sert pas, là j'avoue, bon moi je reste au masque traditionnel, ça me pose pas de problème.
Qu'est-ce que vous appelez le masque traditionnel ?
Ah, bah, le masque bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, qui est le masque chirurgical. Voilà.
Eh ben, il est très bien celui-là. Et vous l'achetez ou on vous le donne ?
Ah non, j'achète.
Vous le changez chaque jour ?
Ah oui, absolument.
Donc
absolument.
Vous achetez une boîte. Et une boîte, ça vaut combien aujourd'hui ?
Alors la boîte, c'est autour de 20 euros. La boîte.
C'est pas donné. Ah. Et elle dure combien de temps ? La boîte
attendez que je vous mente.
Il y a 50
pas,
masques dedans.
Je sors pas tous les jours, mais enfin, ça me dure à peu près un mois, hein, parce que moi je suis à la campagne, je suis tranquille. Je sors, ça fait à peu près un mois, ça fait 20 euros par mois, on va dire.
Parce que voilà. Pour tout vous dire, parfois, et c'est le cas de pas mal de salariés, il y a beaucoup de masques qui sont mis à disposition par leur employeur. C'est le cas à RTL, et c'est le cas aussi dans d'autres stations dans lesquelles je travaille.
Le cas dans mon association, oui.
Et donc, dans ces cas-là, on ne les achète pas. C'est une chance, d'ailleurs, parce que notre employeur nous donne ces masques. Donc, c'est pourquoi je vous demandais le prix aujourd'hui de la boîte telle que vous l'achetez.
Moi, je raisonne en coût mensuel, c'est 20 euros à titre personnel. Maintenant, quand j'interviens, parce que j'appartiens à une association, quand j'interviens au titre de cette association, enfin, ce n'est pas pour le moment, là, pour l'instant, nous avons interrompu nos interventions, mais là, effectivement, les masques nous sont donnés. Mais je n'y touche pas, bien évidemment. Je touche au masque que j'ai fait moi.
Pourquoi vous n'y touchez pas ? Je ne comprends pas.
Ben parce que je ne tiens pas à faire des dépenses supplémentaires pour mon association.
Ah,
quand je suis à titre privé chez moi, je prends mes propres masques. Et quand j'interviens
au titre
de mon association, je prends. Voilà, c'est une question d'honnêteté.
Bien sûr. Bah, écoutez, merci pour ce premier témoignage. Vous êtes en Seine-et-Marne.
Ça.
Mélanie va être là, mais manifestement, j'entends la petite musique de Greg Caradoni qui m'indique qu'il veut déjà laisser passer une page de publicité.
Absolument, bonjour à tous. Bonjour,
bonjour. Alors aujourd'hui, c'est pas le Blue Sunday ?
Non.
C'était le Blue Monday d'ailleurs, parce que Sunday c'était le Blue Dimanche.
On n'y arrivait toujours pas.
Je suis pas terrible en anglais. Donc il n'y aura pas de musique aujourd'hui peut-être ?
Non, sauf si on a une inspiration à un moment, pourquoi pas.
Mais c'est pas tous
on
les
pourrait
jours,
peut-être
forcément.
Écouter des musiques de films de Jean-Pierre Bacri.
Oui, pourquoi pas ? Ça c'est une bonne idée. Voilà une bonne idée. Et puis vous pouvez nous parler évidemment de Jean-Pierre Bacri qui était drôle, intelligent, subtil et qui nous manque déjà. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous avez été des milliers à appeler pour saluer hier le débrief de l'ami Laurent Tessier qui ponctuera désormais notre heure 30 d'émission avec les auditeurs. Il y avait quasiment une manifestation devant RTL. Ah. C'était très très bien hier ce que vous avez fait. Vous écoutez pendant une heure et demie et puis...
Vous mettez la pression pour aujourd'hui
quand
même.
Mais non,
hein.
C'était drôlement bien. Bonjour cher Laurent.
Bonjour à tous.
Que nous dit-on au standard ?
Face à la circulation en France du variant britannique du Covid-19, le Haut Conseil de la Santé publique recommande d'éviter certains masques en tissu à moins filtrant, privilégier ceux que l'on trouve dans les commerces, mais on n'y comprend plus rien. Faut-il donc éviter le masque fait maison ? Le docteur Bruno Grandbastien, président de la Société française d'hygiène hospitalière, était l'invité de RTL Midi.
Effectivement, les masques que vous faites à la maison avec un bout de tissu qui a été retrouvé ne peuvent pas être garantis de la même façon que les masques industriels, que ce soit des catégories 1 en tissu ou des masques chirurgicaux à usage unique. Selon la texture du tissu, on aura des qualités de filtration très 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 différentes.
Alors, quel type de masque portez-vous ? L'avez-vous fabriqué vous-même ? Yannadine porte un masque chirurgical, c'est ce qu'elle nous dit sur la page Facebook. Je le change régulièrement. Même commentaire de Floriane, les chirurgicaux me conviennent très bien. Alors Anaïs s'énerve sur nos réseaux sociaux, on veut nous faire acheter des masques industriels, on veut vendre. Bon, réagit Catherine, au départ, on a entendu que les masques n'étaient pas utiles, ensuite fabriquez-les vous-même, après c'est obligatoire et maintenant les faits maison sont déconseillés. Bon, on nous prend pour des quiches en France. Allez, lance Yves, c'est reparti pour une polémique sur les masques.
Selon une information publiée par Le Monde, le gouvernement envisage de prolonger la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver et le spectre d'une saison blanche à 15 jours des vacances d'hiver se précise.
Quand on reverrai-je, pays merveilleux.
Je crois qu'effectivement, nous pourrons chanter avec Michel Blanc cette petite comptine qu'on entendait dans les bronzés. Fond du ski, vous pourrez intervenir aussi, bien sûr, sur ce sujet. Nous sommes avec Mélanie, bonjour.
Bonjour Pascal, vous allez bien ?
Eh bien écoutez, ça va Mélanie, vous êtes en Corrèze.
Oui.
Et de temps en temps, vous nous donnez de vos nouvelles. Je sais que vous êtes factrice, mais vous êtes
Exactement.
Une factrice en voiture, si je me souviens bien.
Et oui, c'est ça.
Bon, comment ça se passe ?
Oh ben, aujourd'hui, ça va. Un petit peu glacé, mais ça va. On a encore un peu de neige, mais c'est très joli, avec un beau ciel bleu.
Et les masques que vous portez, vous avez obligation de porter un type de masque ?
Oui, alors depuis le déconfinement, oui, on a depuis le port du masque, on est obligé de porter les masques bleus, là, les chirurgicaux.
Et on vous les donne à la poste ?
On a la chance d'avoir, comme vous, Pascal, d'avoir les masques donnés.
Donc on vous donne combien de masques par jour ?
En fait, on doit, selon la tournée, donc ça fait à peu près 2 masques par jour. Donc on a des boîtes, et dès qu'on a fini notre boîte, on en réclame une autre.
Bon, ben ça, c'est plutôt bien mis en place.
Ça, j'avoue que oui. Par contre, là, je suis en colère, c'est que je pense qu'ils vont nous prendre vraiment pour des débiles longtemps, là. Si vous voulez, au tout début du confinement, il n'y avait pas de masque, il fallait vite en procurer, les faire, les machins. Aujourd'hui, on en a trop, je pense, ou ils vont être périmés, donc il faut les user.
Donc, je ne comprends pas ce que vous dites.
Pourquoi... Si vous voulez, on n'a plus le droit de mettre les masques faits par nous-mêmes, alors qu'il y en a qui ont mis des filtres, des choses comme ça.
Pas le droit, c'est qu'ils sont moins efficaces que les masques chirurgicaux.
Oui, comme par hasard.
Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Quel est votre sentiment ?
Parce que là, aujourd'hui, donc moi j'ai un enfant, aujourd'hui, donc masque obligatoire, bien sûr. On a la chance, on a eu des parents d'élèves qui ont fabriqué pour tous ces élèves des masques en tissu.
Ah oui, mais si c'est moins efficace, vous pensez que c'est pour écouler le stock ?
Ah oui, c'est pour écouler le stock, parce que si vous regardez derrière la boîte, il y a une date de péremption. Donc ils ont dû en commander je ne sais combien de millions, puis là, la date de péremption arrive échéante.
Je
ne
suis pas sûr, je ne suis pas certain. Mais en revanche, comment dire, est-ce que pour vous, une dépense mensuelle de masques, c'est une dépense importante, Mélanie ?
Pour moi, heureusement que mon entreprise me les fournit, parce que non, excusez-moi, mais ça ferait un budget énorme. Ça serait presque à 100 euros par mois, mais 100 euros, c'est énorme.
Ah si, c'est 100 euros, oui, ça serait énorme. Mais pourquoi ce serait aussi cher ? Vous êtes combien dans votre famille ?
Parce que, on est deux, mais bon, il faut au moins 2 masques par jour, comptez.
Vous êtes deux avec votre fils ?
Voilà, c'est ça.
Quel âge il a, votre fils ?
Il a 9 ans.
Bah écoutez, effectivement, si c'est 100 euros, mais je pense que ça peut être quand même... À l'école, évidemment, on ne lui donne pas de masque gratuit. C'est lui qui doit venir avec son propre masque.
Exactement.
Il a 9 ans, comment il supporte le masque ?
Eh ben, je vais vous dire que c'est, les enfants sont formidables. Eux, ils les supportent très bien et ils les mettent correctement par rapport à d'autres adultes. Hein.
Parce qu'effectivement, ils sont conditionnés. C'est ça qui, d'ailleurs, peut faire peur. On est en train de conditionner toute une jeunesse qui, peut-être, on lui donne l'habitude de porter un masque. Et alors, est-ce bien, est-ce pas bien ? Je n'en sais rien.
Ou plutôt, si j'ai un avis.
J'ai un avis là-dessus. Oh, je crains effectivement que nous les portions longtemps. C'est ce qui m'inquiète parfois, Mélanie.
Regardez en Chine, ils les portent depuis, même avant déjà la Covid.
Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Moi, c'est ce monde-là qui m'effraie.
Oui, malheureusement, oui. Eh ben, écoutez, en plus, on verra plus nos jolis sourires.
Ben
et
oui.
Ça, c'est dommage.
Ben, je partage votre avis, mais nous avons mis le doigt dans un cycle hygiéniste, pourquoi pas. Et ça va être très difficile dans l'entreprise, par exemple, quand quelqu'un viendra vous dire « je n'ai pas à prendre ton rhume ou ta grippe ».
Exactement.
Je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'est imparable. Mais que lui dire ? Lui dire que la vie, c'est du risque, qu'on doit tous vivre ensemble. Donc j'ai peur qu'effectivement, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on soit tous masqués toujours et tout le temps.
Ça aussi, et j'ai peur aussi que donc, la société nous oblige à porter ces masques chirurgicaux sous peine d'amende. Si on a un masque en tissu, on aura une amende.
Bah alors ça, on n'en est pas là. On n'en est pas là, Mélanie. On n'en est pas là.
Mais le pire n'est jamais certain. Et je vous pars une bouteille de champagne qu'on la boit tous les deux, qu'on aura une amende.
Bon,
parce qu'on n'aura pas ce fameux masque.
Vous êtes en zone rurale, hein, Mélanie ?
Oui, exactement.
Vous avez le sentiment que les gens ont peur, par exemple, lorsque vous faites votre tournée ?
Oui, j'avoue qu'en plus, nos clients sont gentils parce qu'on arrive masqué, on est obligé d'avoir le masque tout le temps. Et ben, les gens, avant d'ouvrir, disent « Attendez, on va chercher notre masque. »
Ouais. Et eh ben c'est ces témoignages-là qui sont intéressants à entendre entre 13h et 14h30 parce qu'ils donnent le pouls de l'opinion. Merci beaucoup Mélanie. Merci.
Merci Pascal, je vous ai mis une petite photo sur Facebook.
C'est pas vrai. Mais alors faut me...
Je vous ai mis sur un message, demandez à Greg sur Facebook, je vous ai mis une petite photo pour vous.
Mais c'est une vraie famille finalement.
Je m'empresse d'aller voir.
Hein, c'est une photo de comment dire, de vous.
Non, du paysage.
Ah, une photo du paysage. Bah écoutez, oui. Merci beaucoup Mélanie. Merci, c'est gentil. Greg, vous nous direz, vous essaierez de nous transmettre, parce que moi j'ai pas Facebook là sous les yeux.
Je regarde ça pendant le prochain écran publicitaire.
Et vous avez votre masque vous-même.
Bien sûr, en tissu.
Bien sûr.
Je le porte consciencieusement.
Non, ça, c'est pas un masque en tissu.
Non, pardon, c'est un masque chirurgical.
Vous êtes complètement fou.
C'est parce que je vous écoute.
Vous avez un masque en tissu.
Je suis complètement fou.
Ah oui, franchement, et il y a également en régie, je le dis, tout le monde a son masque. L'ami Laurent a son masque et je vois Pierre-Louis également
oui.
qui est là-bas.
Damien Béchiot, tout le monde est là.
Damien Béchiot est là.
La grande famille.
Il est où, Damien Béchiot ?
Il est,
il est couché peut-être.
Non,
il est debout. Là, je l'ai vu.
Bonjour Pascal.
Bonjour ami. La pub à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous sommes donc sur cette polémique des masques. Quel type de masque portez-vous ? Est-ce que vous l'avez fabriqué vous-même ? Ça vous fait beaucoup réagir. On est avec Virginie qui est infirmière libérale à Marseille. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal Pro. Bonjour les auditeurs et bonjour à tout le monde.
Et merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment sur ces masques ?
Alors, je vais commencer par la base. Pour moi, comme ce qu'on m'a appris à l'école et au début de toute cette histoire de Covid, un masque chirurgical ne me protège pas, mais je le porte pour protéger les autres. Un masque FFP2 est un masque qui me protège et qui protège les autres. Le seul défaut sur tous ces masques, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de taille et nous n'avons pas tous la même morphologie. Donc, évidemment, chez une personne qui est très obèse avec un visage très très rond, le masque ne va pas couvrir comme il se doit le visage et le menton, le nez et le menton en même temps, qui fait qu'il y aura peut-être moins d'efficacité. Après, les masques en tissu. Effectivement, je suis d'accord avec le médecin qui est intervenu.
Bruno Grandbastien.
tout à fait. Je suis amplement d'accord avec lui quand il dit que tout dépend aussi du tissu que l'on utilise. Alors, il faut qu'il soit suffisamment imperméable pour éviter que les particules passent, mais il faut qu'il soit suffisamment perméable pour qu'on puisse respirer sans s'étouffer avec son propre dioxyde de carbone. Donc déjà, c'est tout un choix de tissu à faire pour le particulier qui n'est peut-être pas au fait des choses. Et on voit des masques qui sont fabriqués maison, pour certains qui sont très bien faits, avec la possibilité de rajouter un coton filtrant à la limite entre les deux faces tissus. Mmh. J'en ai vu, on voit des masques. Moi, par exemple, ma fille qui est en CP, on a reçu par le Conseil Général des masques blancs en coton doublés, mais tellement fins que je me pose la question de l'efficacité.
Non mais Virginie, je pense qu'on a compris que le masque en tissu, faut plutôt l'oublier et puis il faut rester simplement sur ce masque chirurgical et puis voilà.
Oui, il faut rester sur ce masque chirurgical et j'irai au-delà. Il faut que tout le monde accepte de porter ce masque chirurgical parce que comme je l'ai dit au début,
tout le monde le porte.
Le masque le problème, alors, Mélanie, que vous avez eue avant, qui est factrice, a énormément de chance d'avoir des clients chez qui elle se présente, qui acceptent de mettre le masque. Moi, il m'arrive parfois d'arriver chez des patients qui ne mettent pas le masque, soit parce qu'ils n'y pensent pas eux-mêmes, et quand on leur demande, on nous envoie promener, mais non, mais attendez, on est chez moi ici, je ne vais pas mettre un masque.
Ces cas-là, vous, en tant qu'infirmière, vous rentrez pas, j'imagine. Vous leur dites, écoutez, si vous voulez pas mettre de masque, je m'en vais.
J'y vais quand même.
Et pourquoi faut leur dire, ils sont pas respectueux.
Il y a des obligations de soins.
Mais ils sont pas respectueux vis-à-vis de vous. Donc vous êtes une soignante et ils vous mettent en danger. Donc vous leur dites, écoutez, monsieur, si vous ne souhaitez pas mettre de masque, libre à vous effectivement, mais libre à moi de rentrer chez moi. Je vous fais pas ou la piqûre ou les soins que je devais vous faire. Ça arrive souvent ça.
Ah ça c'est récurrent.
C'est-à-dire par exemple hier c'est arrivé.
Hier j'ai eu la chance d'arriver dans une famille pour la première fois. Ils avaient tous les trois le masque. D'ailleurs j'ai été assez surprise. Mmh. Et je leur ai dit merci. Merci,
c'est la moindre des choses quand même.
La personne met le masque. Après, sur les 13 patients que j'ai, en chronique habituelle, donc ce sont tous des personnes qui ont en moyenne d'âge à ma tournée, ils ont entre 85 et 90 ans de moyenne d'âge. Mmh. Autant dire qu'ils sont tous à risque, hein, puisque on le sait que les personnes les plus âgées sont les plus fragiles face au Covid. Moi, à chaque fois, personnellement, j'ai pas attendu le Covid pour porter le masque.
Oui, non, mais ce qui m'intéresse, c'est eux, ils le portent pas majoritairement.
Non.
Bon, écoutez, c'est dommage.
J'ai deux patients qui le mettent systématiquement et automatiquement. Et après, j'ai des patients qui vivent en famille. Alors, le patient, il va peut-être avoir le masque pendant le temps du soin, mais la famille ne le porte pas forcément. Après, quelque part, j'ai envie de dire, ils ont une réflexion qui est assez logique. Et ça mériterait peut-être des explications de la part de médecins ou en tout cas de sachants. Parce que même moi, je suis pas forcément capable de leur répondre parce que des fois, ils ont des arguments qui sont assez costauds. Ils me disent, mais attendez, c'est ma maison, j'habite dedans, je ne mets pas le masque chez moi. Les miasmes, ils restent en suspension, on nous a dit pendant X temps. Donc quand vous rentrez chez moi, même si je mets le masque, vous rentrez quoi qu'il arrive dans mes miasmes. Donc, quoi qu'il arrive,
non, mais même c'est symbolique.
Que je le mette ou que je le mette pas.
Merci Virginie en tout cas, mais c'est aussi symbolique, c'est-à-dire que c'est assez agressif vis-à-vis de vous, bien sûr, de ne pas le porter ce masque. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas délicat, c'est pas tout simplement courtois, même vis-à-vis de vous, de faire cela. La musique de la pub arrive et nous allons passer une nouvelle pause. Je rappelle que vous pouvez parler de Jean-Pierre Bacri, hein, ça va être un de nos sujets. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Nous avons également ces enfants qui prennent du poids. Ça, appelez-nous si vous êtes parent ou même si vous êtes ado et que vous avez pris un petit peu de poids. Il y a la vaccination qui ne fonctionne pas toujours dans les mairies. Est-ce que ça va mieux qu'hier? Est-ce que vous avez pu avoir vos rendez-vous? On ne devait pas avoir d'ailleurs quelqu'un qui devait vacciner son grand-père. Son père de 98 ans me souvient.
Absolument, c'est Yves et on l'aura au cours de l'émission.
Ah, ça serait bien. Et puis on avait dit qu'on demanderait comment c'est passé. C'était à Valenciennes, je crois, qu'il était Yves, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Laurent Tessier à 13h30.
Plusieurs maires montent au créneau pour critiquer le manque de doses de vaccins. Emmanuel Macron a demandé à Olivier Véran de publier en toute transparence la répartition dans le pays. Le ministre de la Santé a assuré qu'il n'y avait pas de stock caché. Vous êtes aujourd'hui un maire en colère. Les élus ont-ils raison de pousser un coup de gueule? 32-10. On peut parler des conséquences du confinement sur les plus jeunes. Deux enfants sur cinq ont pris du poids jusqu'à 6 kilos, selon le syndicat national des pédiatres français. Et ces collégiens rencontrés par Alexandre de Saint-Aignan reconnaissent un peu de relâchement.
J'ai essayé de faire du sport un peu, mais ça m'a saoulé. Et on faisait pas de sport, on sortait pas, il n'y avait rien. On était obligé de grossir. Hein.
Les parents, ils allaient refaire des courses tous les deux jours, des pâtes, hamburger, hot dog, que du gras. Ouais, j'ai dû prendre 8 kilos, un truc comme ça.
Les parents, nous attendons dès maintenant au 32-10. Une entreprise lyonnaise propose des vacances illimitées à ses 30 salariés.
Est-ce que tu viens pour les vacances?
Ça, faut oublier, hein. Ça, je peux vous dire qu'avant que vous partiez en vacances au soleil et qu'on puisse bouger. Alors,
seule contrainte,
ça, c'est pas tout
Pascal,
de suite,
ne pas gêner un autre collaborateur ou le développement d'un projet. L'idée vous séduit, est-ce bien raisonnable? 32-10. Et vous pourrez rendre hommage à Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés à l'âge de 69 ans.
J'ai rien compris sur le truc de vacances. On peut prendre des vacances, mais faut pas
illimité.
Quoi,
bah oui, vous gênez pas l'autre collaborateur ou si elle développement d'un projet pour l'entreprise.
Et vous pouvez prendre des vacances illimitées.
À certaines conditions.
Mais c'est quoi, illimité?
Deux conditions. Vous pouvez prendre 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 9 semaines, 10 semaines.
Mais c'est des vacances sans solde.
Après, vous posez plein de questions, Pascal.
Bah, attendez, vous me dites des vacances illimitées pour des entreprises.
Mais on va pouvoir en parler au 32-10 si vous le souhaitez.
Appelez-nous, mais on va pouvoir développer beaucoup, le sujet. Parce que non, que j'aime les vacances. Hein.
Ah bah, j'espère. Vous pourrez rendre hommage à Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés à l'âge de 69 ans.
Aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Hein. Et aujourd'hui.
Quel est votre film préféré avec l'acteur? Eh bien, appelez-nous dès maintenant pour témoigner au standard.
Quel comédien, Martine, est avec nous. Alors, il y a quand même, tout à l'heure, on a peut-être dit, c'était un auditeur, des chiffres fantaisistes sur le prix des masques. Les masques, c'est aussi 50 masques pour 5 euros dans une grande surface. C'est ce qu'on me dit. 50 masques pour 5 euros. Non, ça vous laisse sans voix. Bonjour Martine.
Non, c'est à moi que vous vous adressiez. Oui.
Bonjour Martine, bonjour.
C'est vrai que si l'on cherche un peu, oui, on peut arriver, même en pharmacie, à avoir des masques dont j'espère qu'ils sont de qualité, à des prix défiant toute concurrence. Ceci étant, pour revenir aux masques fabriqués soi-même, moi, au démarrage, lorsqu'on ne trouvait pas de masques et que les masques n'avaient pas été distribués par les mairies, etc., j'en ai fabriqué. Mais c'est vrai que si on veut fabriquer un masque qui, je pense, était relativement efficace, c'est du travail. C'est-à-dire, c'est pas simplement faire 4 plis, une couture et mettre 2 élastiques. Et moi, j'avais trouvé un tuto intéressant et qui, pour essayer d'évaluer la qualité du masque, faire le test de la bougie. On met son masque, on allume une bougie, on souffle du plus fort qu'on peut sur la flamme. Si elle ne vacille pas, c'est qu'on a quand même une bonne protection.
Bon, bah, alors, écoutez, vous l'avez fait, ce test?
Vaut ce que ça vaut.
Vous l'avez fait, ce test?
Ah ben, moi, je l'ai fait, mais ceci, ça demande aussi, par exemple, de ne pas faire un masque avec une piqûre en plein milieu.
Mais non, mais plus simple, c'est peut-être plutôt que, je crois, je veux bien qu'on fabrique tous nos masques, mais c'est pas hors de prix, 5 euros pour 50 masques.
Mais je suis tout à fait d'accord.
Ça fait 5 euros par mois.
Le masque en tissu est quand même... Moi, je l'utilise encore. Je les utilise encore quelquefois, mes masques en tissu. J'utilise des masques à jeter parce que je n'ai pas une grosse consommation. Mais c'était quand même très agréable.
Le masque en tissu, vous préfériez?
C'est agréable.
Ah bon?
quand c'est un bon tissu, c'est quand même un peu plus, ça ne colle pas. Je pense qu'on transpire un peu moins si, par exemple, on marche ou que voilà, qu'on fait une activité. C'était très agréable. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de test pour ce type de masque. Et c'est vrai que certaines fois, on voit des personnes, il vaudrait mieux qu'elles mettent une écharpe devant leur leur bouche et leur nez, plutôt que les masques qu'elles se sont fabriqués. Ça paraît évident.
Ben merci beaucoup Martine, je crois qu'on a fait le tour de cette affaire de masques. On peut recommander effectivement d'utiliser des masques chirurgicaux, d'autant que dans les grandes surfaces, ils sont quand même très abordables. Mais hier, vous le savez, on était avec Yves, qui habite Valenciennes. Et Yves, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour Yves, vous aviez rendez-vous hier dans un centre de vaccination pour faire vacciner votre papa qui a quand même 98 ans.
C'est ça. Bon. À Saint-Saulve, exactement.
Exactement. Et je vous ai dit hier, rappelons-nous aujourd'hui ce qu'on fait en ce moment.
Tout à fait.
Alors, je voulais savoir, Yves, d'abord comment ça s'est passé, puis vous êtes avec votre papa qui est près de vous ?
Alors, je me suis organisé pour qu'il soit à côté de moi. Hein, je suis au lieu où il réside, donc à la Châtaigneraie à Saint-Saulve. Et donc, il est à côté de moi. Ce petit problème, on a été pris 10 minutes avant hier.
Vous avez été pris 10 minutes avant le rendez-vous qui était initialement prévu, c'est ça ?
Voilà.
Mais qu'est-ce que ça change ?
Rien du tout. Donc, j'étais pour plaisanter un petit peu. Mais pour dire que ça s'est bien passé, donc il était pris à l'heure, même avant l'heure, que bon, on lui a administré la piqûre et qu'il est resté un petit quart d'heure sur le côté pour voir les éventuelles réactions.
Oui, parce qu'il y a un effet quand indésirable, si tant est que l'effet indésirable se manifeste, c'est quasiment immédiat. Autrement, il ne se manifeste jamais.
Oui, c'est ça. C'est le protocole, c'est rester un quart d'heure dans le fauteuil.
Bon, et il était content, votre papa, de cette hospitalité, de cette vaccination ?
Ben, il était content, puisqu'il était demandeur.
Bon, bah écoutez, on va lui parler.
Je vais essayer de vous le passer.
Il s'appelle Richard.
Simplement une petite chose, je reviens sur l'auditrice. Effectivement, on trouve des masques. Moi, les derniers que j'ai achetés, bon, je peux citer l'enseigne, c'était Intermarché, et je les ai payés 4,95 les 50.
C'est ça, c'est 5 euros. Alors, puisque vous citez Intermarché, je vais citer Leclerc également.
Alors, 5 euros, je les avais payés chez Leclerc, oui, 3-4 semaines avant. Oui,
ouais, c'est chez Leclerc, manifestement, c'est 5 euros les 50 masques. Alors, on va parler avec Richard, votre papa, donc 98 ans. Il est né en 1922, en novembre, je crois, vous m'avez dit hier.
Alors, je vous le passe.
Eh bien, passez-le-moi. Ça va être bien. C'est rare d'avoir un auditeur aussi âgé. Et forcément, nous, ça nous fait plaisir d'avoir Richard qui s'est fait vacciner hier et qui va être avec nous. Monsieur Richard, est-ce que vous m'entendez ?
Ben, je vous entends, mais pas très mal. Vous savez, je suis chaud comme un pot. Hein,
bon. Bah, vous entendez plutôt bien, puisque je vous ai posé une petite question. Alors, je vais parler un petit peu plus fort, peut-être. Comment ça s'est passé hier ?
Ben, très bien, très bien. Vous savez, monsieur Pro, ça me faisait peur. Parce que tous les jours, je regarde BFM.
Ben, vous ne devez pas me voir beaucoup quand vous regardez BFM, mais bon, c'est pas grave.
Non, mais tous les jours, alors, je vois à longueur de journée, on fait voir les piqûres, là, hein, on voit en gros plan, on dirait qu'un marteau-piqueur, ça fait peur, le machin. Alors, j'avais peur en arrivant, en allant me faire piquer, hein, mais c'est rien du tout, là, c'est...
Mais c'est parce que, d'abord, il faut regarder de temps en temps une autre chaîne info, Richard, et vous verrez que... Parfois, les piqûres sont plus douces. Ça vous a pas fait mal du tout
Non, pas du tout.
Et vous n'avez aucun effet secondaire ?
Non, pas pour le moment, non.
Bon, c'est vous qui étiez demandeur de vous faire vacciner, Richard ?
Oui, c'est moi. Là. Moi, j'étais volontaire parce que nous sommes dans un 85 à peu près dans la maison, vous savez, ici au centre. Et je tenais à... comme le plus ancien, je suis le plus ancien de la maison... Je voudrais montrer l'exemple.
Eh bien, vous avez bien raison, mais vous avez quand même sans doute une bonne santé et une immunité, j'ai envie de dire, naturelle très forte, parce que vous êtes arrivé jusqu'à 98 ans, Richard, donc vous devez avoir une bonne nature, comme on dit.
Bah oui, j'ai commencé à travailler à 16 ans, vous savez, et j'ai fini, j'ai 37 ans. 6 ans, j'ai travaillé avant la guerre. Je suis entré en gendarmerie, j'ai fait 32 ans de gendarmerie.
Bah écoutez.
l'occupation en Autriche, 2 ans. J'ai fait 2 ans en Indochine, j'ai fait 1 an au Maroc, j'ai fait 2 ans en Algérie et 3 mois en Tunisie, puis enfin dans toute la France, du gendarme immobile, vous savez.
Alors, et pas souvent malade, pas manifestement, Richard.
En ce moment, hein.
Pas souvent
alors,
malade.
J'ai fait toute ma carrière en gendarme immobile. Et vous savez, je dis toujours en déplacement, bien. Et souvent des déplacements à Paris. Souvent des déplacements à Paris. Je me rappelle quand il y avait une grande autorité qui s'amenait à Paris, ben, on a y allé. J'ai vu par exemple, plus ancien, c'est le président Kennedy, que j'ai, au passage, que j'étais sur le bord de la route, là, contre nous, les impassibles, président Kennedy.
Richard.
Le général de Gaulle, c'est qu'il couchait à l'Elysée, on le suivait en déplacement, tout ça. J'ai vu pas mal tous les grosses.
Je comprends, Richard.
Déplacés souvent à Paris.
Richard, juste une petite chose. Ça, ce qui m'intéressait, c'est votre immunité, si j'ose dire. Jamais de fièvre, jamais de maladie durant toutes ces années-là?
Pardon?
Je dis jamais ça de fièvre, mal. Jamais de grippe, jamais de. Ou très peu de maladie durant ces années-là. Une immunité très forte, pas beaucoup de fièvre?
Ben non. En Indochine, j'ai eu le paludisme, enfin, et puis. Autrement,
Donc une bonne santé. Non. Bah écoutez, merci beaucoup Richard. Franchement, parce que vous êtes bon pied bon oeil, 98 ans. Franchement, j'aimerais bien arriver à 98 ans dans l'état dans lequel vous êtes, de vous souvenir aussi précisément de tout. Et on sera peut-être là, nous, quand on aura 98 ans, cher Grégory.
On les aura pas ensemble, ces 98 ans.
Ah ouais. Ce que vous dites n'est pas faux. Je remercie. Attends, on va remercier Yves quand même, parce qu'on a. Alors, c'était vraiment sympa d'entendre Richard, le papa d'Yves. Ouais. Et Yves, il est parfait, votre père.
Ouais, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il vous raconte sa vie. Hein.
Mais c'est sympa comme tout. Je vais vous dire, je pense que les gens adorent ça. Voilà.
Ouais, je suis content pour lui.
Les gens adorent ça. Les gens qui nous écoutent, en ce moment, il est 13h41. Ils ont entendu un gendarme mobile qui leur racontait qu'il était sur le passage de Kennedy et de Gaulle. Et je suis sûr qu'ils ont eu un sourire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, votre papa, c'est le nôtre. C'est ça la vérité.
Exactement.
C'est le nôtre. C'est on a tous des parents, des grands-parents qui, à la fin de leur vie, ont besoin de parler. On les écoute avec tendresse et plaisir.
Exactement. Et il y a encore plein d'optimistes.
Eh ben, écoutez, Yves, tenez-nous au courant, bien évidemment. Et puis nous, on vous fait des bisous ainsi qu'à votre papa.
Ben, je vous rappelle pour ses 100 ans. Hein?
Ah ben, même pour l'anniversaire. Pourquoi pas en novembre prochain pour les 99.
Okay,
merci Yves.
Ok, merci. Merci. Bonne continuation, au revoir.
Merci Grégory, c'était un bon moment.
Très très bon moment. Quand vous dites à Richard, quand vous suggérez à Richard de regarder une autre chaîne info que BFM, vous voulez parler de LCI?
Je ne peux pas parce que comment dire, ça ne serait pas convenable que je lui dise quelle autre chaîne regarder. C'est tout.
Je comprends.
Ou moi aussi, je comprends. 13h42.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
L'homme que nous allons recevoir maintenant s'appelle Didier, mais a priori il est resté un homme. Bonjour Didier.
Bonjour Pascal. Bon. Excellent la série avec l'ancien.
Ben non, mais c'était bien d'entendre. Mais
excellent.
Mais en revanche,
on est des petits joueurs à côté.
Mais en revanche, vous Didier, j'imagine que depuis le film de Bakri Chabat, parfois on vous taquine sur votre prénom.
Oui, bah, le prénom, ça va encore, mais le nom, le prince, c'est encore pire, tu vois. Donc, surtout, c'est en un seul mot, quand même, je rassure.
Vous vous appelez Didier le prince?
Oui.
Mais c'est
voilà.
Joli, Didier le prince, comme nom.
Oui.
Bon, vous êtes maire républicain de Fontvannes. Dans l'Aube, pardonnez-moi, la climatisation me joue des tours.
À vos souhaits.
Sur la vaccination, est-ce que le maire que vous êtes est satisfait de l'organisation?
Je dirais qu'aujourd'hui, le maire et le conseiller départemental que je suis est membre de l'intercomité de Trois-Champagne-Métropole. Je constate qu'effectivement, l'ARS, donc l'État, les services du département, Trois-Champagne-Métropole, en accord donc avec monsieur le préfet, font tout ce qu'ils peuvent effectivement pour organiser. D'accord. En revanche, quand on entend, bien sûr, il y a une com très importante sur la vaccination, dont ce qui est plutôt positif, c'est qu'en fait, les Français, petit à petit, se décident de se faire vacciner. Et ça, je dirais, c'est plutôt bien. En revanche, sur le terrain, cher Bastien, c'est que ben, nos concitoyens nous appellent. J'arrive pas à avoir la plateforme, j'arrive pas à me connecter sur Doctolib. Et puis, si tant est que j'y sois arrivé, je peux pas me déplacer. Alors donc, il y a tous ces sujets-là qui commencent à sortir. Et on a surtout un vrai sujet, c'est qu'on a l'impression, à entendre les 400 de vaccination qui se mettent en place et qui se mettent en place dans toute la France, le vrai sujet, j'avais une call ce matin avec les maires de France, c'est qu'en fait, ce qui remonte, c'est qu'on a de grosses inquiétudes sur la livraison, si je peux dire, de ces centres de vaccination et on n'a aucune...
Il n'y a pas assez de doses.
Il semblerait qu'il n'y ait pas assez de doses.
Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit depuis hier.
Oui.
C'est-à-dire que à Clamart, par exemple, on avait Jean-Paul Hamon hier. Il y avait un centre qui avait été mis en place pour 5000 doses, je crois, par semaine. On en était à 160 hier par jour.
Alors c'est un vrai sujet parce que les maires que nous sommes, comme ça a été pendant la période, bien sûr, de confinement et puis de fabrication des masques, où on s'est même mis à en fabriquer localement, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a beau, comme disait François Baroin ce matin, on a beau tout organiser pour permettre à nos aînés d'être vaccinés. Le vrai sujet, c'est qu'il faut qu'on ait une véritable visibilité. Et c'est là qu'il faut que le gouvernement soit assez clair avec nous et avec la communication sur ces échanges, qu'on dise des choses aux gens. Bon, maintenant, c'est bien, vous le faites vacciner. Maintenant, certains vont attendre 15 jours, d'autres un mois, peut-être le mois de mars. Voilà, on en est. Alors, François Baroin, avec les maires de France ce matin, a pensé aussi qu'il va solliciter le gouvernement pour que peut-être qu'on organise des vaccinations à domicile. Encore une fois, il faudra avoir les vaccins, mais il y a un vrai sujet en ruralité quand même, Bastien.
Ouais, mais là, si vous faites des vaccins à domicile, il faut du temps. Hein, si une infirmière, si une infirmière se déplace avec des conditions particulières de stockage du vaccin, c'est forcément du temps. Par définition, il faut du temps. Et pour avoir du temps, il faut avoir des infirmières et de l'humain. Et ça ne va pas être simple.
Oui, mais encore une fois, on est toujours dans des sujets de logistique, d'organisation, de planification. Parce que je note aussi, c'est que je vois que les collègues maires, on l'a vu ce matin, certains ont commencé à mobiliser des pompiers, des navettes, ont pris le relais pour aider certaines personnes à prendre des rendez-vous. Donc on voit qu'au local, les collectivités territoriales font le maximum et sont réactives. Ce qu'on a besoin du gouvernement, c'est de la visibilité, de la transparence, et puis enfin, puis à un moment des directives, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas forcément du jour au lendemain. Quoi. C'est ça le vrai sujet. Quoi.
Merci Didier de ce témoignage. Eric est là également, qui est coach sportif. Eric, on l'écoutera après la publicité. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Eric est donc là, il est coach sportif à Montpellier. Il était avec nous la semaine dernière, je crois. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Pascal.
Et là,
heureux d'entendre.
Moi aussi, heureux de vous entendre. Vous souhaitez faire vacciner votre maman?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, par rapport à l'ampleur de la vaccination, le rejet est là. Et quand on veut faire vacciner ces personnes, ma maman a 90 ans passés, elle habite seule, et ça a été déjà la galère pour pouvoir trouver un rendez-vous. Bien sûr, on doit le faire à sa place et tout. Et ensuite, quand on trouve un rendez-vous, eh ben, on est obligé de faire plus de 50 km pour aller se faire vacciner.
Pourquoi?
Parce que le centre d'Orléans est complet, il n'y a plus de place.
Mais vous êtes où? Vous êtes à Montpellier?
Ma maman est à Orléans. Moi, j'habite Montpellier.
D'accord.
Voilà. Et ma maman habite toute seule à Orléans.
Effectivement, s'il fallait aller de Montpellier avec votre maman jusqu'à Orléans, là, je m'inquiétais un peu.
Mais bien sûr. Et donc, elle ne peut pas faire tout ça toute seule. Je ne comprends pas.
Bien sûr.
Je comprends pas pourquoi l'État, enfin le gouvernement, je sais que c'est dur pour eux, pour tout le monde d'ailleurs, c'est dur pour tout le monde, mais je comprends pas pourquoi on délègue pas non plus aux médecins traitants, je dis bien traitants, les personnes qui connaissent mieux ma maman, quoi, en ce moment, de la vacciner. Elle est obligée de trouver quelqu'un qui va l'emmener à 50 km pour se faire vacciner. Mais en plus...
Mais elle habite où, votre maman? Elle habite dans Orléans ou elle habite à l'extérieur d'Orléans?
Juste, le panneau, vous voyez, le Saint-Jean-de-Bray, le panneau Orléans, c'est juste là. Elle est devant le panneau Orléans.
D'accord. Et elle vit seule?
Elle vit seule.
Donc elle n'est pas en maison encore?
Non, elle est dans son
appartement. Donc elle est en bonne forme?
Écoutez, ça va, mais avec le confinement, avec les trucs, c'est compliqué. Avant, elle faisait 2 heures de sport par semaine, et en ce moment, ben, je lui dis bouge.
Mais il n'y a pas de centre de vaccination dans Orléans où ils sont tous complets?
Ils sont complets.
Donc elle est obligée, elle peut pas. Alors, elle aurait été prise peut-être plus tard si elle était restée à Orléans se faire vacciner?
Ah, je sais pas, on lui a donné ce rendez-vous-là.
Et le rendez-vous, il est quand?
Il est deuxième semaine de février, je crois.
Ah oui, en plus, c'est pas tout de suite, quoi. C'est quand même.
C'est pas tout de suite, ça sera en février.
Non, mais ça, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible.
Ça me met hors de moi, mais le cas concret, raison, donc, ça serait que ma maman. Pourquoi pas? Mais elle a ses voisins qui sont dans le même cas. Eh bien, eux, ils vont d'Orléans, ils vont être obligés d'aller à Gien pour se faire vacciner.
Non, mais ça n'a pas de sens.
Il y a une organisation qui ne va pas. Il n'y a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec vous.
Moi, je suis outré par ça, par ces décisions.
Mais on peut peut-être appeler le. Ça serait intéressant d'ailleurs, le maire d'Orléans, parce que j'étais avec le maire d'Orléans.
Je sais qu'il passe souvent. Il était avec vous. Moi, je regarde beaucoup.
Voilà, il était sur une autre station, voilà. Mais c'est pas grave pour tout vous dire. Je vais voir. Je vais donner le téléphone. Je vais faire passer le téléphone à Laurent Tessier. Et si on peut l'appeler immédiatement pour savoir pourquoi c'est comme ça, parce que ce matin, lui, il était. Extrêmement fâché contre la politique de l'État lorsqu'on parlait avec lui. Donc si on arrive à le joindre, il est 13h56, je demande à l'ami Greg, on doit rendre à quelle heure Greg ?
Nous devons rendre dans 2 minutes et Laurent est déjà en train de composer le numéro pour...
Écoutez, pour à ce moment-là on fera en direct, on va se transformer en Julien Courbet, on le fait de temps en temps.
Exactement.
Et ça c'est un cas intéressant. Moi, j'adore cette émission parce que vous êtes les experts du quotidien. Vous nous rapportez ce qui se passe précisément. C'est vous qui faites l'émission. Et ce que vous venez de dire, il y a plein de gens qui sont dans leur voiture, j'imagine, ou ailleurs.
Et qui sont disent, pareils.
Et qui disent surtout, c'est aberrant.
Et oui,
c'est surtout ça, c'est aberrant.
La question que j'aimerais poser à ce gouvernement, franchement, c'est tout simple. Après, ils disent c'est faisable, c'est pas faisable. Pourquoi ils ne donnent pas aux médecins traitants la possibilité de vacciner les gens de plus de 75 ans. Après, ils choisissent leur
On leur posera la question.
Pourquoi on ne peut pas faire ça?
Bon, est-ce que M. Grouard est avec nous? Que nous dit Laurent Tessier? Est-ce qu'il a réussi à le joindre, Laurent?
Je viens de lui laisser un message.
Bon.
Tu nous écoutes?
Alors, je vais lui envoyer aussi un message. On va laisser passer peut-être une page de pub. Restez avec nous. De toute façon, on a le temps. Il nous reste une demi-heure.
Oui, il n'y a pas de problème. D'accord.
Et je vais vous dire, on va parler de Jean-Pierre Bacri. Je sais que Jeanne est là déjà pour rendre hommage à Jean-Pierre Bacri. Bonjour Jeanne.
Bonjour Pascal.
Quel est le film que vous avez préféré de Jean-Pierre Bacri?
Oh, Mes meilleurs copains.
Mais avec Christian Clavier.
Oui, et puis Darroussin. Parce que Darroussin, il était... tout le temps là, tout le temps avec Jean-Pierre Bacri. Et c'est pas, c'était une équipe de copains. On avait l'impression de se retrouver avec eux. C'était magnifique.
Bah, on va lui rendre hommage entre 14h et 14h30. À tout de suite. Restez vraiment avec nous parce qu'on va essayer d'arranger le cas d'Éric. Le flash, Bacri et le vaccin. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va être dans une seconde avec le maire d'Orléans, Serge Grouard, qui sera là et qui pourra répondre à Eric et la difficulté qu'a Eric qui habite Montpellier, sa maman qui habite Orléans et qui est obligé d'aller se faire vacciner à 50 km d'Orléans. Bonjour Serge Grouard.
Bonjour Pascal Pro.
Ça va être un cas d'école. Je sais que vous êtes un peu en pétard. Pardonnez-moi, c'est un peu trivial.
C'est un peu ça. Non,
contre l'État et contre le préfet. Eric vous parle.
Pas contre le préfet.
Alors contre l'État et son organisation. Eric vous racontera ce qui arrive à sa maman et c'est pas facile. Pour le moment, il est 14h. Olivier.
Jean-Marc Reiser a finalement avoué avoir tué la jeune étudiante strasbourgeoise Sophie Le Tal en septembre 2018. Elle avait disparu après s'être rendue à une visite d'appartement. Des traces de sang, l'ADN de la victime avait été retrouvé dans l'appartement. Et malgré les évidences, Reiser n'avait jamais avoué. Il a expliqué ce matin qu'il ne voulait pas la tuer, mais qu'une dispute avait éclaté. La surmortalité causée par l'épidémie de Covid a fait baisser l'espérance de vie en 2020 de 6 mois pour les hommes, de 5 mois pour les femmes. Deuxième enseignement des les statistiques de l'INSEE. La natalité est au plus bas en France depuis 1945. 13 000 naissances de moins qu'en 2019. Le taux de fécondité est de 1,84 enfants par femme aujourd'hui. Le procès de Georges Tron est reporté à lundi. L'ancien secrétaire d'État est accusé de viol par d'anciennes collaboratrices. Il est cas contact Covid. Lui va être jugé à partir de cet après-midi. L'ancien Premier ministre Édouard Balladur, soupçonné d'avoir financé sa campagne présidentielle de 1995 avec des rétrocommissions illégales en marge de gros contrats militaires signés avec le Pakistan. C'est une partie de l'affaire dite de Karachi. Et puis une intersyndicale appelle les conducteurs de RER A et B à une grève jeudi pour protester contre leurs conditions de travail et réclamer de meilleurs salaires. Le temps demain nuageux au-dessus d'une ligne Nantes-Belfort avec un peu de pluie en Bretagne, de la pluie également autour de la Méditerranée jusque vers Montélimar. Et les températures demain matin, 1 degré en Alsace pour la minimale, 6 degrés dans le nord, 7 degrés en Vendée, 5 à Aurillac ou encore 12 à Marseille, Pascal.
Merci Olivier, le maire d'Orléans est avec nous, Serge Grouard, je le salue et je le remercie d'être avec nous. Nous sommes également avec Eric, Eric qui est donc à Montpellier, sa maman a 90 ans et sa maman habite Orléans et elle a pris rendez-vous pour se faire vacciner, ça ne sera pas avant le 15 février et elle est obligée d'aller à 50 km d'Orléans, Serge Grouard. Donc comment est-ce possible ?
Ben c'est possible parce que je crois Eric, mais c'est totalement absurde. Et parce que tout est centralisé sur cette plateforme nationale et pour laquelle nous n'avons pas notre mot à dire localement. Parce qu'il est évident que si on avait pu avoir accès à ce type de problème, mais on l'aurait résolu. On ne va pas demander à une dame de 90 ans de faire 50 km pour aller se faire vacciner. C'est une aberration de plus.
Mais il y a un centre de vaccination à Orléans.
Mais bien sûr, on a sur la métropole d'Orléans, on a deux centres de vaccination. Alors, et donc, on peut tout à fait l'accueillir, cette dame.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, Eric ?
Il faut que je connaisse son nom, qu'Eric me dise de qui il s'agit, et puis on va prendre ça en charge, et puis voilà.
Mais Eric, votre mère, oui. Lorsqu'elle a appelé, j'imagine c'est par téléphone qu'elle a pris ce rendez-vous.
Ah, c'est mon frère qui a pris le rendez-vous, donc il a dû prendre rendez-vous par internet, je pense, hein, qui a essayé, par internet, quoi.
Mais par exemple, votre frère ne se serait pas trompé par hasard ? C'est pas lui qui aurait fait une mauvaise manip,
toujours. Non, je pense pas mon frère. Je pense qu'il a été très déjà en plus mon frère c'est un personnel à risque hein, puisqu'il est asthmatique à 100%, donc il fait très attention et je pense que non, il a pas dû se tromper mon frère, non.
Mais c'est-à-dire Serge Grouard que dans vos deux centres de vaccination, tous les rendez-vous sont pris jusque peut-être début mars ?
Mais en plus la plateforme d'inscription de rendez-vous, eh bien, au regard du nombre de demandes qu'il y a eu, elle n'a plus été accessible très vite. Donc, si vous alliez sur le net, vous aviez une sorte de bandeau qui vous disait qu'il n'y avait plus de disponibilité. Et quand vous passiez un coup de téléphone, eh bien, on vous disait, écoutez, rappelez plus tard, si vous arriviez à joindre quelqu'un. Hein, parce que ça, c'était déjà pas facile. Mais en admettant que vous ayez eu quelqu'un, on vous disait, rappelez plus tard. Parce que pour l'instant, nous n'avons plus de créneau disponible. Alors, peut-être, ce que j'imagine, mais je ne le sais pas, c'est que la maman d'Éric, eh bien, elle a été adressée à un autre centre sur le Loiret, puisqu'on en a 5 au total sur le Loiret.
Oui, c'est à Blois.
C'est en petit plus est, c'est à Blois. Ben voilà. Oui. Donc, on lui a dit, parce qu'il y avait peut-être encore un créneau disponible sur Blois, on va vous mettre sur Blois. Je pense que c'est peut-être ce qui a dû se passer. Et c'est aberrant.
Et la demande d'Éric, que ce soit les médecins traitants qui assurent la vaccination, pourquoi elle n'est pas entendue ?
À mon avis, parce que pour l'instant, nous n'avons pas assez de vaccins, nous avons très peu de doses. Je vous dis, sur Orléans, total, sur l'ensemble du bassin d'influence d'Orléans, on a 200 doses par jour. On va monter un tout petit peu, mais à ce rythme-là, il va nous falloir un an pour vacciner les plus de 75 ans. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, on n'a pas assez de doses, donc on peut largement le faire dans nos centres de vaccination. Et puis, j'ajoute que le fameux vaccin Pfizer, vous savez, il faut le réfrigérer, donc il y a des conditions d'utilisation qui sont un peu plus compliquées, qui ne peuvent pas être stockées chez un médecin généraliste.
Bon, bah, écoutez, merci d'abord Serge Grouard. Je retiens votre proposition. Eric, évidemment, on va le faire hors antenne.
Hors antenne, vous me donnez le nom de la personne et puis moi, je vais me débrouiller pour qu'elle soit vaccinée et qu'elle ne fasse pas 50 km et 100 km aller-retour.
En plus, elle est domiciliée sur Orléans. Nous sommes d'accord, Eric.
Juste à la limite, c'est juste à la limite à Saint-Jean-de-Bray, Pont-du-Loup. Je ne sais pas.
Très bien. Il y a pas.
C'est juste la limite, c'est le panneau Orléans.
Vous vous rendez compte qu'on a un centre qui est sur Fleury-les-Aubrais, qui est à 5 minutes de Saint-Jean-de-Bray.
Oui, c'est ça, oui.
5 minutes.
Eh ben, écoutez, c'est parfait. Vous vous rendez compte, c'est formidable. C'est pour ça que cette conversation est folle, quand même. C'est-à-dire qu'une dame qui est à 5 minutes d'un centre de vaccination, qui a 90 ans, on l'envoie à 50 km. Donc voilà la France d'aujourd'hui. Donc c'est magnifique.
Je vous redis, Pascal Pro, donner au maire la compétence pour faire ça et le registre des inscriptions, et vous ne retrouverez plus ce genre d'aberration.
Eh ben merci Monsieur Grouard et merci Eric. Alors Eric, merci. Laurent Tessier donne le numéro d'Eric à Serge Grouard. Merci Monsieur le maire.
Et puis moi,
merci Serge, merci Eric, et puis moi, je vais battre ma coulpe puisque j'ai utilisé l'expression qui est horrible. J'ai dit sur Orléans, ça c'est faute.
Ça m'a étonné de vous. Ça.
Mais oui, je suis d'accord avec vous. Évidemment, en plus c'est une. Je trouve que cette erreur s'est généralisée. T'es sur Limoges ce week-end, vous voyez, alors que t'étais à Limoges.
Bien sûr, parce qu'au jour d'aujourd'hui que vous disiez ça, ça me rend.
Au jour d'aujourd'hui, et je rappelle également que on ne part pas à Orléans, on part pour Orléans et on va à Orléans. D'ailleurs, partir pour, c'est beaucoup plus joli. Je pars pour la boule, je pars pour les vacances, je pars pour Noirmoutier.
On part pour la pub.
On part pour la pub, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et à 14h08, on va rendre hommage cette fois à notre ami Jean-Pierre Bacri. Je regardais parce que j'ai l'impression que Jeanne nous a quittés momentanément et elle était avec nous, Jeanne. Et je crois qu'elle n'est plus en ligne.
Donc on est en train de la rappeler.
Voilà, donc on voulait rendre hommage évidemment à Jean-Pierre Bacri. Et ce matin, vous avez peut-être écouté dans le surf de Cyprien Signy une pépite. Et une pépite, c'était l'interview de Stéphane Boutsock avec Jean-Pierre Bacri. Il lui pose une question, il se fait engueuler, mais engueuler gentiment.
Je vais vous demander de me dire qui vous êtes dans le film et de me présenter. Comment vous parlez?
C'est incroyable, parce que vous, les journalistes, vraiment, vous faites pas chier, quoi. Vous faites pas chier. Au lieu de dire aux gens, alors c'est l'histoire d'un mec qui est comme c'est ça, vous demandez à l'acteur de vous faire le truc. Non, mais qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire, c'est un mec qui organise des mariages. C'est ça que vous voulez que je vous dise?
Et effectivement, il y avait parfois un parallèle entre le rôle de Bacri et l'homme Bacri. Donc nous avons retrouvé Jeanne. Bonjour Jeanne.
Bonjour Pascal.
Et qu'est-ce qui vous plaisait chez Jean-Pierre Bacri?
Sa voix, sa façon d'être, je sais pas, même ses mimiques. Je trouvais qu'il avait toujours des mimiques, des espèces de tics et sa façon de jouer. Je le trouvais vraiment, il avait un talent, je trouve, époustouflant. Autant en réalisateur qu'en acteur, je le trouvais vraiment magnifique dans ses rôles. Toujours un peu avec une nonchalance, le râleur, pas possible. On avait l'impression que rien dans la vie ne pouvait l'égayer. Il était toujours à râler. On avait envie de le prendre dans ses bras. C'était le gros nounours, en fait, mais il râlait tout le temps. Et c'était plutôt rigolo, quoi, en fait.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui vont rester. J'ai vu ce soir, par exemple, il y a Un air de famille qui est programmé sur une chaîne et puis il y a Le goût des autres qui est programmé sur une autre. Ouais. Est-ce que vous savez le film que vous allez regarder ce soir?
Un air de famille.
Pourquoi?
Parce que j'aime ces situations où les gens se réunissent et en fait, il y a des choses qui sortent qui ne devraient peut-être même pas sortir. Et on a l'impression parfois de se retrouver dans tous ces films, de se dire ben, c'est un peu nos vies aussi. Et je sais pas, c'est un moment de détente. Ce sont des films qu'on voit vraiment avec bonheur. Et c'est quelqu'un qui va vraiment manquer au cinéma, je pense.
Mais vous dites détente, mais parfois pour Un air de famille, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on peut s'identifier, c'est ce que vous dites, parce que toutes nos familles sont plus ou moins dysfonctionnelles, j'ai envie de dire. Et il y a parfois du non-dit. Et ce non-dit, il est très bien exprimé dans Un air de famille, avec ses trois enfants. Il y en a un qui a bien réussi, l'autre qui a pas réussi. Et on voit bien la mère, le rapport qu'elle a avec ses enfants. Et c'est là qu'il y a identification possible.
C'est ça, et le fait qu'il se retrouve, je crois que c'est dans la mère de famille, où il se retrouve toutes les semaines dans le café justement de Jean-Pierre Bacri, et ils ont ces principes de vraiment être en famille et de se retrouver. Et là, c'est la femme de Jean-Pierre Bacri qui est partie, je crois.
Arlette.
Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ça met un peu une ambiance bizarre. On se demande pourquoi elle est partie. Et c'est aussi le fait que dans toutes les familles, je pense qu'on a, il y a des non-dits, il y a des choses que on ne se dit pas, et en grandissant, bah peut-être qu'on voit les choses autrement et que
ça s'arrange pas généralement en grandissant. Hein. Parfois, non, certains prennent le large.
Oui, parfois certains prennent le large, mais je pense que ce sont la vie de famille est ainsi. Je pense que on peut pas tous aller dans le même sens. Et ce qui est reproduit dans ces films-là, c'est qu'on arrive bien à s'identifier. Et il était toujours entouré d'acteurs comme Jean-Pierre Darroussin. Moi, je suis assez fan de Jean-Pierre Darroussin aussi, qui sont des acteurs d'une simplicité. Je sais pas, ils ont un talent merveilleux. Enfin, le cinéma, ça apporte tellement de choses à la vie. Et vite qu'on puisse retourner au cinéma. Et je me dis que si déjà on n'a pas le cinéma et que tous nos acteurs s'en vont comme ça, je sais pas ce qui va nous rester.
D'accord.
C'est vraiment une situation particulière, et de voir ces acteurs-là qui nous quittent de maladie, c'est, je sais pas, moi le cinéma c'est une passion, et j'ai dû la transmettre à mon fils qui fait une école de cinéma à Paris, donc je sais pas, j'adore le cinéma. C'est peut-être mon nom de jeune fille, hein, je sais pas qui...
Vous appelez comment ?
Carmet, comme Jean Carmet.
Non, mais vous dites une chose juste, c'est que c'est un plaisir d'aller au cinéma, et c'est un plaisir de partager ensemble dans une salle. Je vous propose un extrait d'un air de famille.
Et Arlette, elle est là-haut ?
Non, elle n'est pas là, Arlette. Parce qu'elle fout encore, ça. Mais 8h moins le quart, ça continue. Et madame est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi ? Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude.
C'est beau l'amour quand même, hein ?
Quoi, c'est beau l'amour ?
Bah, la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau.
Et qu'est-ce qu'il connaît, toi ? Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir, puis on en reparlera de la compréhension. Elle sait que le vendredi, c'est le jour de la famille. Elle peut pas avoir un peu de respect, non ? Je passe pour quoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle est pas là ? Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Ouais, je suis pas papa, moi. Trop bon, trop con. Et ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Je l'aime. Mais faut pas exagérer. Je me trouve déjà trop gentil, moi. Mais qu'est-ce qu'il dit ici, là, ricaner dans son coin, lui, là ? C'est pas vrai, peut-être ?
Je sais pas, patron, je suis neutre, moi.
Ouais, bah tu peux me raconter tout ce que tu veux. Moi, je sais qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme.
Ah bah, jusqu'à là, on est d'accord. Hein.
Chacun son sexe, et les vaches seront bien gardées. Oui, tu veux ta girafe, oui, j'arrive.
Et la girafe, c'est le chien qui s'affaisse dans le film. Film de Cédric Clapiche, la voix de Jean-Pierre Darroussin. C'est un film formidable, mais c'est un dialogue formidable. C'est une intelligence. C'est vraiment un film à revoir ce soir. Merci beaucoup, Jeanne.
C'est moi qui vous remercie.
Et en tout cas, vous en parlez très bien.
Merci, c'est gentil.
Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il jouait si bien la comédie que précisément, on avait le sentiment qu'il ne la jouait pas. Jean-Pierre Bacri sonnait juste, le spectateur ne voyait rien, ni le travail, ni l'artifice, ni le talent. Il incarnait dans ses films des personnages qu'il rendait plus vrais que de nature. C'était aussi le cas au théâtre, lorsqu'il interprétait les pièces écrites avec Agnès Jaoui, ou lorsqu'il jouait Chrysal dans Les Femmes Savantes. Un jeu moderne, récité du Molière, comme on dit du Bacri, une façon très parlée, très contemporaine, très naturel, qui faisait de lui un comédien d'exception. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Quel est le film que vous avez préféré de Jean-Pierre Bacri ?
Écoutez, il y en a plusieurs. Alors c'est un peu les classiques, Cuisine et dépendance, Un air de famille, ce genre de film. Mais j'ai un souvenir qui colle un petit peu à l'actualité, parce que je me souviens dans mes jeunes années étudiantes, dans les années 90, où le ciné était très important pour nous, comme d'autres choses. Et je me souviens d'un film dont on parle un peu moins, qui s'appelait L'été en pente douce.
De Gérard Kravzik.
Exactement. Et quand c'est une histoire un peu de loser, parce qu'il tient un restaurant, qu'il essaie de monter, puis ça marche pas bien. Et puis la galerie de portraits de second rôle, c'était également d'autres acteurs très attachants qui nous ont quittés. Et on se dit que c'est également une forme de page qui se tourne quelque part. Je pense à Pauline Lafont qui est morte dans des conditions dramatiques, mais il y avait également des gens comme Jean Bouise, comme Jacques Villeray, et c'était un film où il mettait vraiment en avant toute sa puissance d'acteur. Et ce que j'aime bien dans Bacri, c'est en effet cette qualité de jeu dont vous venez de parler de façon très très bien. Il y a rien à rajouter. Ce que j'aime bien également, c'est ce côté ronchon qui est un peu un trait de caractère des Français quelque part. Sauf que lui, on a l'impression qu'il ronchonne pour des causes justes, alors que parfois, en tant que Français, on ronchonne peut-être pour des choses moins juste en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui va nous manquer et dont on ne mesure peut-être pas encore à juste titre l'importance du travail, que ce soit en termes d'acteur, mais également en termes de réalisateur, de scénariste. Et le duo qui fermait avec Agnès Jaoui, c'était vraiment des scénarios qui étaient ciselés et qui étaient, j'ai envie de vous dire, également abordables par tous dans les promos qui tenaient et puis dans les mots qui étaient à l'intérieur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, moi, sur ces souvenirs de Bakri, ouais, quelque chose d'éminemment important dans le cinéma français et dans le théâtre français aussi. Ouais.
C'est marrant parce que, évidemment, L'été en pente douce, c'est un très très joli titre, L'été en pente douce, qui est resté un peu dans notre vocabulaire. C'est un film de 87. Oui. Et effectivement, il y a Jacques Viret, il y avait Pauline Lafont. Je pense que c'est peut-être le dernier film de Pauline Lafont.
Elle porte après en montagne de mémoire.
Jean Bouise joue dedans. Guy Marchand joue également. Bouise, qui était un comédien magnifique, qui a disparu en 1989. Il n'avait que 60 ans, Jean Bouise. Et qu'on voit dans tout le cinéma français comme immense, peut-être un des plus grands second rôles, Jean Bouise, du cinéma français. Benoît, restez avec nous parce que vous en parlez bien également de Jean-Pierre Bacri. Donc je vous propose d'écouter Cuisine et Dépendance, un extrait.
Tu comptes passer la soirée ici?
Ah, quel mépris! 2 heures de retard, et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite, même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible, il n'y a que du mépris là-dedans.
Ils se sont excusés, Georges, ça arrive d'être coincé en voiture.
Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Maman, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas, c'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Là, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision, belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision.
Quel est le con qui passe pas à la télévision? Merci Benoît, et on voit il y a quelque chose. C'est pas que du rire ou du sourire ou du divertissement. Je veux pas dire que il y a quelque chose de l'entomologie, d'ausculter la société française, d'ausculter le rapport à la notoriété, par exemple dans cet extrait-là. Il y a quelque chose. J'irai pas jusqu'à dire qu'on est chez Saint-Simon, mais il y a quelque chose de très puissant quand même qui mérite qu'on l'écoute avec attention.
Juste.
Merci vraiment beaucoup, Benoît. Vous êtes ingénieur
à
Beauvais.
Merci, Pascal, et continuez votre émission, elle est formidable.
Bah écoutez, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Il est 14h20. On va marquer une dernière pause et puis c'est le rendez-vous désormais que toute la France attend.
Tout simplement.
Tous les jours. Notre ami Tessier fera un débriefing, un compte-rendu, une synthèse de tout ce que vous avez entendu depuis 13h sans épargner personne. Je l'espère.
C'est le principe. Et j'aurai une surprise pour vous.
Non.
Si.
Ah, moi, j'aime les surprises. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Mais c'est quoi la surprise, Greg?
Ah, vous l'attendiez. C'est vraiment pour vous, c'est exceptionnel. Hein, parce que normalement, c'est réservé à On défait le monde.
En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine.
C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Formidable,
c'est
formidable.
Bon,
c'est vraiment de la chance.
Vous avez le droit, on a le droit ou pas? C'est validé ou c'est exceptionnel?
Je l'ai validé.
Voilà. Alors tous les jours.
Ça serait peut-être pas là demain, remarquez.
Tous les jours à 14h24. Le débrief, Laurent, allez-y.
Vous l'avez annoncé, toute l'émission.
Vous avez été des milliers à appeler pour saluer hier le débrief de l'ami Laurent Tessier. Il y avait quasiment une manifestation devant RTL.
Rien que ça, là, c'est sûr, je vais avoir la pression. Dalida adorait chanter Monday, Tuesday, rappelez-vous pour cause, c'était le Blue Monday hier, la journée la plus déprimante de l'année. Allez aujourd'hui, bah, joie, bonheur, et Pascal, on sent que vous êtes en pleine forme, 13h01, début de l'émission.
Je vais vous demander de me dire qui vous êtes dans le film et de me présenter, comment vous parlez?
C'est incroyable, parce que vous les journalistes, vraiment vous faites pas chier. Quoi.
Je vais vous demander de me dire qui vous êtes dans le film et de me présenter, comment vous parlez?
C'est incroyable,
Jean-Pierre Bacri qui s'exprime, qui intervient dans la chronique. Voilà, c'est le sujet qui vous a fait le plus réagir, la question des masques et cette recommandation du Haut Conseil de la Santé publique d'éviter certains masques en tissu moins filtrant. Yves nous a appelé au 3210.
J'avoue que moi, je me perds un peu en conjecture. Ça contribue à entretenir en fait la confusion dans l'esprit du public, parce que je rappelle quand même que la plupart des Français ne sont pas médecins. Là, j'avoue, bon, moi, je reste au masque traditionnel, ça me pose pas de problème. Le masque bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est le masque chirurgical.
Mais là, Pascal, je ne sais pas pourquoi je ne vous sens pas très en forme, 13h13.
On en a trop, je pense, ou ils vont être périmés, donc il faut les user.
Je ne comprends pas ce que vous dites.
Je ne comprends pas ce que vous dites. Bon, nous sommes aussi joueurs dans cette émission. Mélanie a lancé son pari au 32-10.
J'ai peur aussi que donc, là, la société nous oblige à porter ces masques chirurgicaux sous peine d'amende. Si on a un masque en tissu, on aura une amende. Je vous donne 6 mois, et je vous pars une bouteille de champagne qu'on la boit tous les deux, qu'on aura une amende. Et bon, parce qu'on n'aura pas ce fameux masque.
Le défi est lancé, les auditeurs ont la parole. Bah, c'est aussi de l'amour entre Greg et vous, Pascal.
Bien sûr, en tissu.
Bien sûr.
Je le porte consciencieusement.
Non, c'est pas un masque en tissu.
Non, pardon, c'est un masque chirurgical.
Vous êtes complètement fou.
C'est parce que je vous écoute.
Vous avez un masque en tissu.
Je suis complètement fou.
Ah oui.
Complètement fou, voilà, ça c'est un petit tacle, voilà, qui passe au sein de l'émission. La bonne humeur d'ami Pascal aujourd'hui. Et après Greg, j'ai donc été votre victime aussi également.
J'ai rien compris sur le truc de vacances. On peut prendre des vacances, mais faut pas
illimité.
Quoi,
bah oui, vous n'aidez pas l'autre collaborateur ou si elle développe un projet pour l'entreprise.
Mais c'est quoi, illimité? C'est des vacances sans solde.
Voilà, après vous posez plein de questions, Pascal.
Bah,
comme dirait,
vous avez eu la réponse.
La suite demain, prochain épisode. Parce que, comme dirait Jean-Pierre Bacri, Pascal.
Donc aujourd'hui, que tout le monde a décidé de me faire chier.
Ouais. Et cette émission sont aussi des promos pour la concurrence.
Vous savez, monsieur Pro, ça me faisait peur. Parce que tous les jours, je regarde BFM.
Vous ne devez pas me voir beaucoup quand vous regardez BFM, mais bon, c'est pas grave.
Non,
faut regarder de temps en temps une autre chaîne info.
On ne va pas aller plus loin, parce que l'émission, elle permet aussi des échanges formidables. Richard a 98 ans, il s'est fait vacciner et nous a raconté également des moments marquants de sa vie.
J'ai vu toute ma carrière en gendarmerie mobile. J'ai vu par exemple le président Kennedy, que j'ai, au passage, que j'étais sur le bord de la route.
Richard.
Le général de Gaulle, c'est Kennedy, couché à l'Elysée, on le suivait en déplacement, tout ça.
Eric, lui, plus de difficultés pour sa maman pour trouver un centre de vaccination. Là aussi, c'était un des sujets.
Ma maman a 90 ans passés. Elle habite seule. Quand on trouve un rendez-vous, eh ben, on est obligé de faire plus de 50 km pour aller se faire vacciner. Enfin, ma maman est à Orléans.
Et bien justement, le maire d'Orléans, Serge Gouard, est intervenu au 3210.
Vous me donnez le nom de la personne et puis moi, je vais me débrouiller pour qu'elle soit vaccinée et qu'elle ne fasse pas 50 km et
100
km aller-retour.
Action, réaction dans l'émission.
Et là, ça s'est poursuivi. C'est-à-dire que vous avez donné le numéro.
Exactement.
Et Serge Gouard.
Et nous suivrons évidemment la situation.
Ça, c'est intéressant.
De la maman d'Éric.
Bon, mais on remercie une nouvelle fois le maire d'Orléans quand même. Eh ben, écoutez, c'était parfait. Merci, cher Laurent. Dans une seconde, Flavie Flamand.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.